Madame de Rochegude, comme presque toutes les grandes dames qui rompent leurs chaînes, s'était enfuie en laissant à son mari sa fortune. Elle n'avait pas voulu tendre la main à son tyran. Conti, mademoiselle des Touches, avait évité les ennuis de la vie matérielle à Béatrix, à qui sa mère fit d'ailleurs à plusieurs reprises passer quelques sommes. En se trouvant seule, elle fut obligée à des économies assez rudes pour une femme habituée au luxe. Elle avait donc grimpé sur le sommet de la colline où s'étale le parc de Monceau, et s'était réfugiée dans une ancienne petite maison de grand seigneur située sur la rue, mais accompagnée d'un charmant petit jardin et dont le loyer ne dépassait pas 1 800 francs. Néanmoins, toujours servie par un vieux domestique, par une femme de chambre et par une cuisinière d'Alençon attachée à son infortune, sa misère aurait constitué l'opulence de bien des bourgeoises ambitieuses. Calyste monta par un escalier dont les marches en pierre avaient été poncées et dont les paliers étaient pleins de fleurs. Au premier étage, le vieux valet ouvrit pour introduire le baron dans l'appartement, une double porte en velours rouge, à losanges de soie rouge et à clous dorés. La soie, le velours, tapissaient les pièces par lesquelles Calyste passa. Des tapis de couleurs sérieuses, des draperies entrecroisées aux fenêtres, les portières, tout à l'intérieur contrastait avec la mesquinerie de l'extérieur mal entretenue par le propriétaire. Calyste attendit Béatrix dans un salon d'un style sobre, où le luxe s'était fait simple. Cette pièce, tendue de velours couleur grenat rehaussée par des soieries d'un jaune mat, à tapis rouge foncé, dont les fenêtres ressemblaient à des serres, tant les fleurs abondaient dans les jardinières, était éclairée par un jour si faible qu'à peine Calyste vit-il sur la cheminée deux vases en vieux céladon rouge, entre lesquels brillait une coupe d'argent attribuée à Benvenuto Cellini, rapportée d'Italie par Béatrix. Les meubles en bois doré garnis en velours, les magnifiques consoles sur une desquelles était une pendule curieuse, la table à tapis de Perse, tout attestait une ancienne opulence dont les restes avaient été bien disposés. Sur un petit meuble, Calyste aperçut des bijoux, un livre commencé dans lequel scintillait le manche orné de pierreries d'un poignard qui servait de coupoir, symbole de la critique. Enfin, sur le mur, 10 aquarelles richement encadrées, qui toutes représentaient les chambres à coucher des diverses habitations où sa vie errante avait fait séjourner Béatrix, donnaient la mesure d'une impertinence supérieure. Le froufrou d'une robe de soie annonça l'infortuné qui se montra dans une toilette étudiée et qui certes aurait dit à un roué qu'on l'attendait. La robe, taillée en robe de chambre pour laisser entrevoir un coin de la blanche poitrine, était en moire gris-perle, à grandes manches ouvertes d'où les bras sortaient couverts d'une double manche à bouffant divisée par des liserés et garnie de dentelles au bout. Les beaux cheveux que le peigne avait fait foisonner s'échappaient de dessous un bonnet de dentelles et de fleurs. « Déjà ? » dit-elle en souriant. « Un amant n'aurait pas un tel empressement. Vous avez des secrets à me dire, n'est-ce pas ?» Et elle se posa sur une causeuse, invitant par un geste Calyste à se mettre près d'elle. Par un hasard cherché peut-être, car les femmes ont deux mémoires, celle des anges et celle des démons, Béatrix exhalait le parfum dont elle se servait aux touches lors de sa rencontre avec Calyste. La première aspiration de cette odeur, le contact de cette robe, le regard de ses yeux qui, dans ce demi-jour, attirait la lumière pour la renvoyer, tout fit perdre la tête à Calyste. Le malheureux retrouva cette violence qui déjà faillit tuer Béatrix, mais cette fois, la marquise était au bord d'une causeuse, et non de l'océan. Elle se leva pour aller sonner, en posant un doigt sur ses lèvres. À ce signe, Calyste rappelait à l'ordre, se contint, il comprit que Béatrix n'avait aucune intention belliqueuse. « Antoine, je n'y suis pour personne, » dit-elle au vieux domestique. « Mettez du bois dans le feu. »« Vous voyez, Calyste, que je vous traite en ami, » reprit-elle avec dignité, quand le vieillard fut sorti. « Ne me traitez pas en maîtresse. J'ai 2 observations à vous faire. D'abord, je ne me disputerai pas sottement à un homme aimé. Puis, je ne veux plus être à aucun homme au monde, car j'ai cru, Calyste, être aimé par une espèce de Rizzio qu'aucun engagement n'enchaînait, par un homme entièrement libre. » Et vous voyez où cet entraînement fatal m'a conduite. Vous, vous êtes sous l'empire du plus saint des devoirs. Vous avez une femme jeune, aimable, délicieuse. Enfin, vous êtes père. Je serai comme vous l'êtes, sans excuse, et nous serions 2 fous, ma chère Béatrix. Toutes ces raisons tombent devant un mot. Je n'ai jamais aimé que vous au monde, et l'on m'a mariée malgré moi. Un tour que nous a joué mademoiselle des Touches, dit-elle en souriant. Trois heures se passèrent, pendant lesquelles Madame de Rochegude maintint Calyste dans l'observation de la foi conjugale, en lui posant l'horrible ultimatum d'une renonciation radicale à Sabine. Rien ne la rassurerait, disait-elle, dans la situation horrible où la mettrait l'amour de Calyste. Elle regardait d'ailleurs le sacrifice de Sabine comme peu de chose, elle la connaissait bien. « C'est, mon cher enfant, une femme qui tient toutes les promesses de la fille. Elle est bien grand-lieu, brune comme sa mère la portugaise, pour ne pas dire orange, et sèche comme son père. Pour dire la vérité, votre femme ne sera jamais perdue. C'est un grand garçon qui peut aller tout seul. Pauvre Calyste, est-ce là la femme qu'il vous fallait? Elle a de beaux yeux, mais ces yeux-là sont communs en Italie, en Espagne et au Portugal. Peut-on avoir de la tendresse avec des formes si maigres? Ève est blonde. Les femmes brunes descendent d'Adam. Les blondes tiennent de Dieu, dont la main a laissé sur Ève sa dernière pensée, une fois la création accomplie. » Vers 6 heures, Calyste, au désespoir, prit son chapeau pour s'en aller. « Oui, va-t'en, mon pauvre ami, ne lui donne pas le chagrin de dîner sans toi. » Calyste resta. Si jeune, il était si facile à prendre par ses côtés mauvais. « Vous oseriez dîner avec moi, dit Béatrix, en jouant un étonnement provocateur. Ma maigre chair ne vous effraierait pas, et vous auriez assez d'indépendance pour me combler de joie par cette petite preuve d'affection. Laissez-moi seulement, dit-il, écrire un petit mot à Sabine, car elle m'attendrait jusqu'à 9 heures. Tenez, voici la table où j'écris, dit Béatrix. Elle alluma les bougies elle-même et en apporta une sur la table afin de lire ce qu'écrirait Calyste. Ma chère Sabine. Ma chère? Votre femme vous est encore chère, dit-elle, en le regardant d'un air froid à lui geler la moelle dans les os. Allez, allez dîner avec elle. Je dîne au cabaret avec des amis. Un mensonge! Fi! Vous êtes indigne d'être aimé par elle ou par moi. Les hommes sont tous lâches avec nous. Allez, monsieur, allez dîner avec votre chère Sabine. Calyste se renversa sur le fauteuil et y devint pâle comme la mort. Les Bretons possèdent une nature de courage qui les porte à s'entêter dans les difficultés. Le jeune baron se redressa, se campa le coude sur la table, le menton dans la main, et regarda d'un œil étincelant l'implacable Béatrix. Il fut si superbe qu'une femme du nord ou du midi serait tombée à ses genoux en lui disant « Prends-moi ». Mais Béatrix, née sur la lisière de la Normandie et de la Bretagne, appartenait à la race des Casterans. L'abandon avait développé chez elle les férocités du franc, la méchanceté du normand. Il lui fallait un éclat terrible pour vengeance. Elle ne céda point à ce sublime mouvement. « Dictez ce que je dois écrire, j'obéirai, dit le pauvre garçon. Mais alors ?»« Eh bien oui, dit-elle, car tu m'aimeras encore comme tu m'aimais à Guérande. Écris, je dîne en ville, ne m'attendez pas. » « Et, dit Calyste qui crut à quelque chose de plus, rien, signé. » « Bien, dit-elle en sautant sur ce poulet avec une joie contenue, je vais faire envoyer cela par un commissionnaire. » « Maintenant ? » s'écria Calyste en se levant comme un homme heureux. « Ah, j'ai gardé, je crois, mon libre arbitre, » dit-elle, en se retournant et s'arrêtant à mi-chemin de la table à la cheminée où elle alla sonner. « Tenez, Antoine, faites porter ce mot à son adresse, monsieur dîne ici. » Calyste rentra vers 2 heures du matin à son hôtel. Après avoir attendu jusqu'à 1h30, Sabine s'était couchée, accablée de fatigue. Elle dormait, quoiqu'elle eût vivement été atteinte par le laconisme du billet de son mari, mais elle l'expliqua. L'amour vrai commence chez la femme par expliquer tout à l'avantage de l'homme aimé. Calyste était pressé, se dit-elle. Le lendemain matin, l'enfant allait bien, les inquiétudes de la mère étaient calmées. Sabine vint en riant avec le petit Calyste dans ses bras, le présenter au père quelques moments avant le déjeuner en faisant de ses jolies folies, en disant ces paroles bêtes que font et que disent les jeunes mères. Cette petite scène conjugale permit à Calyste d'avoir une contenance. Il fut charmant avec sa femme, tout en pensant qu'il était un monstre. Il joua comme un enfant avec monsieur le chevalier. Il joua trop même, il outra son rôle. Mais Sabine n'en était pas arrivée à ce degré de défiance auquel une femme peut reconnaître une nuance si délicate. Enfin, au déjeuner, Sabine lui demanda. « Qu'as-tu donc fait hier ?»« Portenduère, répondit-il, m'a gardé à dîner, et nous sommes allés au club jouer quelques parties de whist. » « C'est une sotte vie, mon Calyste, répliqua Sabine. Les jeunes gentilshommes de ce temps-ci devraient penser à reconquérir dans leur pays tout le terrain perdu par leur père. Ce n'est pas en fumant des cigares, faisant le whist, désœuvrant encore leur oisiveté, s'en tenant à dire des impertinences aux parvenus qui les chassent de toutes leurs positions, se séparant des masses auxquelles ils devraient servir d'âme, d'intelligence, en être la providence, que vous existerez. Au lieu d'être un parti, vous ne serez plus qu'une opinion, comme a dit de Marsay. Ah, si tu savais combien mes pensées se sont élargies depuis que j'ai bercé, nourri ton enfant. Je voudrais voir devenir historique ce vieux nom de Duguesnic. Tout à coup, plongeant son regard dans les yeux de Calliste qui l'écoutait d'un air pensif, elle lui dit « Avoue que le premier billet que tu m'auras écrit est un peu sec. Je n'ai pensé à te prévenir qu'au club. Tu m'as cependant écrit sur du papier de femme. Il sentait une odeur que je ne connais pas. Ils sont si drôles, les directeurs de club. » Le vicomte de Portenduère et sa femme, un charmant ménage, avaient fini par devenir intimes avec les Duguesnic au point de payer leur loge aux Italiens par moitié. Les deux jeunes femmes, Ursule et Sabine, avaient été conviées à cette amitié par le délicieux échange de conseils, de soins, de confidences à propos des enfants. Pendant que Calliste, assez novice en mensonges, se disait « Je vais aller prévenir Savinien », Sabine se disait « Il me semble que le papier porte une couronne ». Cette réflexion passa comme un éclair dans cette conscience, et Sabine se gourmanda de l'avoir faite, mais elle se proposa de chercher le papier que la veille, au milieu des terreurs auxquelles elle était en proie, elle avait jeté dans sa boîte aux lettres. Après le déjeuner, Calliste sortit, en disant à sa femme qu'il allait rentrer. Il monta dans une de ces petites voitures basses à un cheval par lesquelles on commençait à remplacer l'incommode cabriolet de nos ancêtres. Il courut en quelques minutes rue des Saint-Pères où demeurait le vicomte, qu'il pria de lui rendre le petit service de mentir à charge de revanche, dans le cas où Sabine questionnerait la vicomtesse. Une fois dehors, Calliste, ayant préalablement demandé la plus grande vitesse, alla de la rue des Saint-Pères à la rue de Chartres, en quelques minutes. Il voulait voir comment Béatrix avait passé le reste de la nuit. Il trouva l'heureuse infortunée sortie du bain, fraîche, embellie, et déjeunant de fort bon appétit. Il admira la grâce avec laquelle cet ange mangeait des œufs à la coque, et s'émerveilla du déjeuner en or, présent d'un lord mélomane à qui Conti fit quelques romances pour lesquelles le lord avait donné ses idées et qui les avait publiées comme de lui. Il écouta quelques traits piquants dits par son idole, dont la grande affaire était de l'amuser tout en se fâchant et pleurant au moment où il partait. Il crut n'être resté qu'une demi-heure, et il ne rentra chez lui qu'à 3 heures. Son beau cheval anglais, un cadeau de la vicomtesse de Grandlieu, semblait sortir de l'eau tant il était trempé de sueur. Par un hasard que préparent toutes les femmes jalouses, Sabine stationnait à une fenêtre donnant sur la cour, impatiente de ne pas voir rentrer Calliste, inquiète sans savoir pourquoi. L'état du cheval, dont la bouche écumait, la frappa. D'où vient-il ? Cette interrogation lui fut soufflée dans l'oreille par cette puissance qui n'est pas la conscience, qui n'est pas le démon, qui n'est pas l'ange, mais qui voit, qui pressent, qui nous montre l'inconnu, qui fait croire à des êtres moraux, à des créatures nées dans notre cerveau, allant et venant, vivant dans la sphère invisible des idées. « D'où viens-tu donc, cher ange ? » dit-elle à Calliste, au-devant de qui elle descendit jusqu'au premier palier de l'escalier. « Abdelkader est presque fourbu. Tu ne devais être qu'un instant dehors, et je t'attends depuis 3 heures. »« Allons, » se dit Calliste, qui faisait des progrès dans la dissimulation. « Je m'en tirerai par un cadeau. » « Chère nourrice, » répondit-il tout haut à sa femme en la prenant par la taille avec plus de câlinerie qu'il n'en eût déployé s'il n'eût pas été coupable. « Je le vois, il est impossible d'avoir un secret, quelque innocent qu'il soit, pour une femme qui nous aime. »« On ne se dit pas de secret dans un escalier, » répondit-elle en riant. « Viens. » Au milieu du salon qui précédait la chambre à coucher, elle vit dans une glace la figure de Calliste qui, ne se sachant pas observer, laissait paraître sa fatigue et ses vrais sentiments en ne souriant plus. « Le secret, » dit-elle en se retournant, « tu as été d'un héroïsme de nourrice qui me rend plus cher encore l'héritier présomptif des Duguesnic. J'ai voulu te faire une surprise, absolument comme un bourgeois de la rue Saint-Denis. On finit en ce moment pour toi une toilette à laquelle ont travaillé des artistes. Ma mère et ma tante Zéphirine y ont contribué. » Sabine enveloppa Calliste de ses bras, le teint serré sur son cœur, la tête dans son cou, faiblissant sous le poids du bonheur, non pas à cause de la toilette, mais à cause du premier soupçon dissipé. Ce fut un de ces élans magnifiques qui se comptent et que ne peuvent pas prodiguer tous les amours, même excessifs, car la vie serait trop promptement brûlée. Les hommes devraient alors tomber aux pieds des femmes pour les adorer, car c'est un sublime où les forces du cœur et de l'intelligence se versent, comme les os des nymphes architecturales jaillissent des urnes inclinées. Sabine fondit en larmes. Tout à coup, comme mordue par une vipère, elle quitta Calliste, alla se jeter sur un divan et s'y évanouit. La réaction subite du froid sur ce cœur enflammé, de l'incertitude sur les fleurs ardentes de ce cantique des cantiques, faillit tuer l'épouse. En tenant ainsi Calliste, en plongeant le nez dans sa cravate, abandonnée qu'elle était à sa joie, elle avait senti l'odeur du papier à lettres. Une autre tête de femme avait roulé là, dont les cheveux et la figure laissaient une odeur adultère. Elle venait de baiser la place où les baisers de sa rivale étaient encore chauds. « Qu'as-tu ? » dit Calliste, après avoir rappelé Sabine à la vie, en lui passant sur le visage un linge mouillé, lui faisant respirer des sels. « Allez chercher mon médecin et mon accoucheur, tous deux. Oui, j'ai, je le sens, une révolution de lait. Ils ne viendront à l'instant que si vous les en priez vous-même. » Le « vous » frappa Calliste, qui, tout effrayé, sortit précipitamment. Dès que Sabine entendit la porte cochère se fermant, elle se leva comme une biche effrayée, elle tourna dans son salon comme une folle, en criant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Ces deux mots tenaient lieu de toutes ses idées. La crise qu'elle avait annoncée comme prétexte eut lieu. Ses cheveux devinrent dans sa tête autant d'aiguilles rougies au feu des névroses. Son sang bouillonnant lui parut à la fois se mêler à ses nerfs et vouloir sortir par ses pores. Elle fut aveugle pendant un moment. Elle cria « Je meurs !» Quant à ce terrible cri de mère et de femme attaquée, sa femme de chambre entra. Quand prise et portée au lit, elle eut recouvré la vue et l'esprit, le premier éclair de son intelligence fut pour envoyer cette fille chez son amie, Madame de Portenduère. Sabine sentit ses idées tourbillonnant dans sa tête comme des fétus emportés par une trombe. « J'en ai vu, disait-elle plus tard, des myriades à la fois. » Elle sonna le valet de chambre, et dans le transport de la fièvre, elle eut la force d'écrire la lettre suivante, car elle était dominée par une rage, celle d'avoir une certitude. « À Madame la Baronne du Guénic. Chère maman, quand vous viendrez à Paris, comme vous nous l'avez fait espérer, je vous remercierai moi-même du beau présent par lequel vous avez voulu, vous, ma tante Zéphirine et Calliste, me remercier d'avoir accompli mes devoirs. J'étais déjà bien payée par mon propre bonheur. Je renonce à vous exprimer le plaisir que m'a fait cette charmante toilette, c'est quand vous serez près de moi que je vous le dirai. Croyez qu'en me parant devant ce bijou, je penserai toujours comme la dame romaine que ma plus belle parure est notre cher petit ange, etc. » Elle fit mettre à la poste pour Guérande cette lettre par sa femme de chambre. Quand la vicomtesse de Portenduère entra, le frisson d'une fièvre épouvantable succédait chez Sabine à ce premier paroxysme de folie. « Ursule, il me semble que je vais mourir, lui dit-elle. Qu'avez-vous, ma chère? Qu'est-ce que Savinien et Calliste ont donc fait hier après avoir dîné chez vous? Quel dîner ? Répartit Ursule, à qui son mari n'avait encore rien dit en ne croyant pas à une enquête immédiate. « Savinien et moi, nous avons dîné ensemble hier soir, et nous sommes allés aux Italiens, sans Calliste. » « Ursule, ma chère petite, au nom de votre amour pour Savinien, gardez-moi le secret sur ce que tu viens de me dire, et sur ce que je te dirai de plus. Toi seule sauras de quoi je meurs. Je suis trahie, au bout de la troisième année, à 22 ans et demi. » Ses dents claquaient. Elle avait les yeux gelés, ternes, son visage prenait des teintes verdâtres et l'apparence d'une vieille glace de Venise. « Vous, si belle, et pour qui ? Je ne sais pas, mais Calliste m'a fait deux mensonges. Pas un mot, ne me plains pas, ne te courrouce pas, fais l'ignorante. Tu sauras peut-être qui par Savinien ? Oh, la lettre d'hier !» Et, grelottant et en chemise, elle s'élança vers un petit meuble et y prit la lettre. « Une couronne de marquise, dit-elle en se remettant au lit. « Sache si Madame de Rochegude est à Paris. J'aurai donc un cœur où pleurer, où gémir. Oh, ma petite, voir ses croyances, sa poésie, son idole, sa vertu, son bonheur, tout en pièces, flétries, perdues. Plus de Dieu dans le ciel, plus d'amour sur terre, plus de vie au cœur, plus rien. Je ne sais s'il fait jour, je doute du soleil. Enfin, j'ai tant de douleur au cœur que je ne sens presque pas les atroces souffrances qui me labourent le sein et la figure. » Heureusement, le petit est sevré. Mon lait l'eût empoisonné. » À cette idée, un torrent de larmes jaillit des yeux de Sabine jusque-là sec. La jolie Madame de Portenduère, tenant à la main la lettre fatale que Sabine avait une dernière fois flairée, restait comme hébétée devant cette vraie douleur, saisie par cette agonie de l'amour sans se l'expliquer, malgré les récits incohérents par lesquels Sabine essaya de tout raconter. Tout à coup, Ursule fut illuminée par une de ces idées qui ne viennent qu'aux amis sincères. « Il faut la sauver, se dit-elle. Attends-moi, Sabine, lui cria-t-elle, je vais savoir la vérité. Ah, dans ma tombe, je t'aimerai, toi, cria Sabine. » La vicomtesse alla chez la duchesse de Grandlieu, lui demanda le plus profond silence et la mit au courant de la situation de Sabine. « Madame, dit la vicomtesse en terminant, n'êtes-vous pas d'avis que pour éviter une affreuse maladie, et peut-être, que sais-je, la folie, nous devons tout confier aux médecins et inventer au profit de cet affreux Caliste des fables qui pour le moment le rendent innocent ?»« Ma chère petite, dit la duchesse, à qui cette confidence avait donné froid au cœur, l'amitié vous a prêté pour un moment l'expérience d'une femme de mon âge. Je sais comment Sabine aime son mari, vous avez raison, elle peut devenir folle. » Mais elle peut, ce qui serait pis, perdre sa beauté, dit la vicomtesse. Courons, cria la duchesse. La vicomtesse et la duchesse gagnèrent fort heureusement quelques instants sur le fameux accoucheur d'Aumanger, le seul des deux savants que Caliste eut rencontré. Ursule m'a tout confié, dit la duchesse à sa fille, et tu te trompes. D'abord, Béatrix n'est pas à Paris. Quant à ce que ton mari, mon ange, a fait hier, il a perdu beaucoup d'argent et il ne sait où en prendre pour payer ta toilette. « Et cela, dit-elle à sa mère en tendant la lettre. « Cela, s'écria la duchesse en riant, c'est le papier du Jockey Club. Tout le monde écrit sur du papier à couronne. Bientôt nos épiciers seront titrés. » La prudente mère lança dans le feu le papier malencontreux. Quand Caliste et Dommanget arrivèrent, la duchesse qui venait de donner des instructions aux gens en fut avertie. Elle laissa Sabine aux soins de Madame de Portenduère et arrêta dans le salon l'accoucheur et Caliste. « Il s'agit de la vie de Sabine, monsieur, dit-elle à Caliste. Vous l'avez trahie pour Madame de Rochegude. » Caliste rougit comme une jeune fille encore honnête prise en faute. « Eh, dit la duchesse en continuant, comme vous ne savez pas tromper, vous avez fait tant de gaucheries que Sabine a tout deviné. Mais j'ai tout réparé. Vous ne voulez pas la mort de ma fille, n'est-ce pas ? Tout ceci, monsieur Dommanget, vous met sur la voie de la vraie maladie et de sa cause. Quant à vous, Caliste, une vieille femme comme moi conçoit votre erreur, mais sans la pardonner. De tels pardons s'achètent par toute une vie de bonheur. Si vous voulez que je vous estime, sauvez d'abord ma fille. Puis, oubliez Madame de Rochegude, elle n'est bonne à avoir qu'une fois. Sachez mentir, ayez le courage du criminel et son impudence. J'ai bien menti, moi, qui serais forcée de faire de rudes pénitences pour ce péché mortel. » Et elle le mit au fait des mensonges qu'elle venait d'inventer. L'habile accoucheur, assis au chevet de la malade, étudiait déjà dans les symptômes les moyens de parer au mal. Pendant qu'il ordonnait des mesures dont le succès dépendait de la plus grande rapidité dans l'exécution, Caliste, assis au pied du lit, tint ses yeux sur Sabine en essayant de donner une vive expression de tendresse à son regard. « C'est donc le jeu qui vous a cerné les yeux comme ça, dit-elle d'une voix faible. » Cette phrase fit frémir le médecin, la mère et la vicomtesse qui s'entre-regardèrent à la dérobée. Caliste devint rouge comme une cerise. « Voilà ce que c'est que de nourrir, » dit spirituellement et brutalement Dommanget. « Les maris s'ennuient d'être séparés de leurs femmes. Ils vont au club et ils y jouent. Mais ne regrettez pas les 30 000 francs que monsieur le baron a perdu cette nuit-ci. »« 30 000 francs !» s'écria bien niaisement Ursule. « Oui, je le sais, répliqua Dommanget. On m'a dit ce matin chez la jeune duchesse Berthe de Maufrigneuse que c'est monsieur de Trailles qui vous les a gagnés, dit-il à Caliste. « Comment pouvez-vous jouer avec un pareil homme ? Franchement, monsieur le baron, je conçois votre honte. » En voyant sa belle-mère, une pieuse duchesse, la jeune vicomtesse, une femme heureuse, et un vieil accoucheur, un égoïste, mentant comme des marchands de curiosités, le bon et noble Caliste comprit la grandeur du péril, et il lui coula deux grosses larmes qui trompèrent Sabine. « Monsieur, dit-elle en se dressant sur son séant et regardant Dommanget avec colère, monsieur du Guénic peut perdre 30, 50, 100 000 francs s'il lui plaît, sans que personne ait à le trouver mauvais et à lui donner de leçons. Il vaut mieux que monsieur de Trailles lui ait gagné de l'argent que nous, nous en ayons gagné à monsieur de Trailles. » Caliste se leva, prit sa femme par le cou, la baisa sur les deux joues et lui dit à l'oreille, « Sabine, tu es un ange. » Deux jours après, on regarda la jeune femme comme sauvée. Le lendemain, Caliste était chez madame de Rochegude et s'y faisait un mérite de son infamie. « Béatrix, lui disait-il, vous me devez le bonheur. Je vous ai livré ma pauvre petite femme. Elle a tout découvert. Ce fatal papier sur lequel vous m'avez fait écrire et qui portait votre nom et votre couronne que je n'ai pas vu, je ne voyais que vous. Le chiffre, heureusement, votre B, était effacé par hasard. Mais le parfum que vous avez laissé sur moi, mais les mensonges dans lesquels je me suis entortillée comme un sot, ont trahi mon bonheur. Sabine a failli mourir, le lait est monté à la tête, elle a un érysipèle, peut-être emportera-t-elle les marques pendant toute sa vie. » En écoutant cette tirade, Béatrix eut une figure plein or à faire prendre la scène si elle l'avait regardée. « Eh bien, tant mieux, répondit-elle, ça vous la blanchira peut-être. » Et Béatrix, devenue sèche comme ses os, inégale comme son teint, aigre comme sa voix, continua sur ce ton par une kyrielle d'épigrammes atroces. Il n'y a pas de plus grande maladresse pour un mari que de parler de sa femme quand elle est vertueuse à sa maîtresse, si ce n'est de parler de sa maîtresse quand elle est belle à sa femme. Mais Calyste n'avait pas encore reçu cette espèce d'éducation parisienne qu'il faut nommer la politesse des passions. Il ne savait ni mentir à sa femme, ni dire à sa maîtresse la vérité, deux apprentissages à faire pour pouvoir conduire les femmes. Aussi fut-il obligé d'employer toute la puissance de la passion pour obtenir de Béatrix un pardon sollicité pendant 2 heures, refusé par un ange courroucé qui levait les yeux au plafond pour ne pas voir le coupable et qui débitait les raisons particulières aux marquises d'une voix parsemée de petites larmes très ressemblantes, furtivement essuyées avec la dentelle du mouchoir. « Me parler de votre femme presque le lendemain de ma faute. Pourquoi ne me dites-vous pas qu'elle est une perle de vertu ? Je le sais, elle vous trouve beau par admiration. En voilà de la dépravation. Moi j'aime votre âme, car, sachez-le bien mon cher, vous êtes affreux comparé à certains pâtres de la campagne de Rome, etc. » Cette phraséologie peut surprendre, mais elle constituait un système profondément médité par Béatrix. À sa 3e incarnation, car à chaque passion, on devient tout autre, une femme s'avance d'autant dans la rouerie, seul mot qui rende bien l'effet de l'expérience que donnent de telles aventures. Or, la marquise de Rochegude s'était jugée à son miroir. Les femmes d'esprit ne s'abusent jamais sur elles-mêmes. Elles comptent leurs rides, elles assistent à la naissance de la patte d'oie, elles voient poindre leurs grains de millet, elles se savent par cœur, et le disent même trop par la grandeur de leurs efforts à se conserver. Aussi, pour lutter avec une splendide jeune femme, pour remporter sur elle 6 triomphes par semaine, Béatrix avait-elle demandé ses avantages à la science des courtisanes. Sans s'avouer la noirceur de ce plan, entraînée à l'emploi de ses moyens par une passion turque pour le beau Calyste, elle s'était promis de lui faire croire qu'il était disgracieux, laid, mal fait, et de se conduire comme si elle le haïssait. Nul système n'est plus fécond avec les hommes d'une nature conquérante. Pour eux, trouver ce savant dédain à vaincre, n'est-ce pas le triomphe du premier jour, recommencer tous les lendemains? C'est mieux, c'est la flatterie cachée sous la livrée de la haine, et lui devant la grâce, la vérité dont sont revêtues toutes les métamorphoses par les sublimes poètes inconnus qui les ont inventées. Un homme ne se dit-il pas alors « je suis irrésistible » ou « j'aime bien car je dompte sa répugnance » ? Si vous niez ce principe deviné par les coquettes et les courtisanes de toutes les zones sociales, nions les pourchasseurs de science, les chercheurs de secrets, repoussés pendant des années dans leur duel avec les causes secrètes. Béatrix avait doublé l'emploi du mépris comme piston moral, de la comparaison perpétuelle d'un chez-soi poétique, confortable, opposé par elle à l'hôtel du Guénic. Toute épouse délaissée qui s'abandonne, abandonne aussi son intérieur tant elle est découragée. Dans cette prévision, Madame de Rochegude commençait des sourdes attaques sur le luxe du faubourg Saint-Germain, qualifié de sot par elle. La scène de la réconciliation, où Béatrix fit rejurer haine à l'épouse qui jouait, dit-elle, la comédie du lait répandu, se passa dans un vrai bocage où elle minaudait environnée de fleurs ravissantes, de jardinières d'un luxe effréné. La science des riens, des bagatelles à la mode, elle la poussa jusqu'à l'abus chez elle. Tombée en plein mépris par l'abandon de Conti, Béatrix voulait du moins la gloire que donne la perversité. Le malheur d'une jeune épouse, d'une grand lieu riche et belle, allait être un piédestal pour elle.